Bonjour à toutes et tous, bienvenue dans Info Club Sandwich, votre quotidienne d'actualité locale et associative. Cette émission est réalisée par Radio Campus Amiens, elle est disponible sur le 87.7 FM, sur le DAB+, et sur radiocampusamiens.fr. Pour ce nouvel épisode, je suis accompagné de Colline et Mathilde. Salut à vous.
Salut.
Bonjour.
Tout va bien ?
Oui, ça va.
Eh bien, c'est nickel. Colline, tu as réalisé l'interview du jour, tu as aussi réalisé les brèves. Quelles sont les actus dont tu vas nous parler en fin d'émission ?
Je vous ai trouvé deux petites actus. Alors, on va parler d'un jeudi citoyenneté et du dispositif Stage & Co pour les étudiants.
Super. Mathilde, de ton côté, tu as préparé une petite chronique que tu nous présenteras en seconde partie d'émission. Donne-nous quelques indices, s'il te plaît.
Je vous parlerai du film Le Cercle des Poètes Disparus.
Très bien. Super. On passe tout de suite à l'interview de Cécile Berger, autrice amiennoise du livre Une bougie de plus, un sujet réalisé par Colline.
Alors bonjour Cécile, tu viens nous parler de ton livre Une bougie de plus, sorti fin 2021. Donc il est réédité en novembre 2024, c'est ça, aux éditions Le Lys Bleu.
Oui, bonjour, tout à fait. Il est sorti une première fois en 2021 et il a été réédité, notamment parce que la maison d'édition c'est un peu étoffé petit à petit et propose de plus en plus de services. Et tout simplement, ça a renouvelé le contrat et voilà, et ça permet qu'il reste disponible en fait.
Ce livre, c'est une autobiographie. Avant qu'on se plonge plus en détail dans le livre, je te laisse d'abord te présenter. Tu as un parcours qui est un petit peu éloigné de l'écriture. Je parle de ton parcours professionnel.
Tout à fait. Oui, en fait, moi, à la base, c'est vrai que je suis plus du milieu scientifique, on va dire, puisque j'ai fait des études de maths. Je suis devenue prof de maths. L'écriture, j'ai toujours aimé, mais ça a resté pour moi un loisir, comme c'est aujourd'hui, mais pas très développé, on va dire, dans le sens où j'écrivais pour moi depuis un moment. Et à vrai dire, je pensais que écrire un livre était réservé à ceux dont c'était le métier, en fait. Donc je n'étais pas du tout d'un milieu littéraire. Et puis finalement, moi, j'ai osé passer le cap, essayer, et voilà. Mais c'est vrai qu'à la base, non, je suis plutôt d'un milieu scientifique. Mais comme quoi, il ne faut pas toujours mettre les gens dans des cases et séparer le monde littéraire du monde scientifique.
Exactement, ce sont des milieux qui se rejoignent. Il y a beaucoup de personnes qui ne sont pas écrivains, de profession, mais qui écrivent des livres et qui publient assez souvent. Dans ce livre, tu te confies sur des moments importants et notamment sur ta maladie, que tu ne nommes pas tout de suite d'ailleurs. Tu le nommes beaucoup plus tard dans ton livre. Pourquoi ?
Tout simplement parce qu'en fait, je pense que ce soit n'importe quelle maladie, ça apporte beaucoup de questionnements dans la construction de soi. Je me suis dit qu'en fait, si j'avais nommé dès le début, peut-être que les gens se seraient moins identifiés. Donc, je voulais parler de la maladie en général, au départ, sans mettre forcément un nom dessus. Mais au bout d'un moment, forcément, je voulais pas non plus que ce soit tabou tout le long du livre. Au bout d'un moment, il fallait dire ce qu'il en était vraiment.
D'ailleurs, tu l'appelles même pas en entier. Tu sais dire que mucoviscidose, tu le dis une fois ou deux, mais souvent tu l'appelles muco. Est-ce que c'est une manière de la personnifier, de pas l'humaniser, mais enfin en quelque sorte de l'humaniser, de lui donner une fonction propre?
C'est plutôt parce qu'elle fait partie tellement de ma vie, tellement que on l'a toujours, moi dans mon quotidien avec mes proches, etc., on a toujours dit la muco, en fait. C'est vrai que c'est parce que c'est presque comme si on donnait un surnom à une copine, quoi. Même, bon, je vais pas dire que la muco c'est ma copine, hein, loin de là. C'est plutôt
mais ça se comprend, ouais.
Un peu l'inverse, mais effectivement, voilà, c'est parce que ça fait tellement partie du quotidien que. Voilà.
Je reviens sur le prologue de ton livre. C'est une adresse directe aux lecteurs-lectrices. Tu commences comme ça. Vous me demanderez, êtes-vous une politicienne ? Je vous répondrai que non. Puis vous me demanderez, êtes-vous une figure du monde économique, un grand patron ? Je vous répondrai que non. Alors peut-être du monde culturel ? Je vous répondrai alors que non. Mais qui êtes-vous donc ? Me demanderez-vous. Je suis un quidam Cécile de mon prénom, quelqu'un qui s'intéresse à la psychologie, au ressenti des gens, quelqu'un qui aime les récits de vie, quelqu'un comme vous. C'est un parti pris de s'adresser directement à lecteurs et lectrices.
Oui, en fait, c'est surtout que c'était... En fait, quand j'ai commencé à écrire, je ne me sentais pas légitime. Déjà parce que je n'étais pas de ce milieu littéraire. Et puis parce que je pensais que c'était réservé effectivement aux écrivains. Moi, pour moi, j'étais rien de tout ça. Donc, je me disais, mais qui est-ce qui va se sentir intéressé par un livre écrit par quelqu'un qu'on ne connaît ni d'Ève ni d'Adam, qui n'est pas du milieu, qui... Bref, je ne savais pas si j'avais les qualités pour écrire. Bref, donc c'était une façon d'expliquer. Effectivement, je suis personne, mais j'ai quand même des choses à dire. Et comme qui que ce soit, d'ailleurs, tout le monde pourrait avoir... Enfin, tout le monde a des choses à dire et tout le monde pourrait écrire, finalement.
Bah, je trouve que c'est un livre où beaucoup de personnes peuvent se retrouver parce que tu écris de manière... comme les gens pensent, en fait. Mmh. C'est-à-dire que tu mets des mots sur ce que les gens pensent, mais ne disent pas.
Oui, c'est vrai que je pense que c'est important de dire les choses. Et moi, c'est ce qui m'a permis toujours d'avancer, en tout cas par rapport à la maladie, mais en fait par rapport à plein de choses, c'est de dire ce que je ressentais. Par rapport à la maladie, on va dire par exemple, ça va être avec mes proches, je dis clairement où j'en suis, comment je vais, si je vais bien je le dis, si je vais pas bien je le dis, et je pense que ça aide. Par exemple, avec mes élèves, par exemple, puisque je suis prof, ils ont bien vu de certaines années que j'allais moins bien, etc. Plutôt qu'ils s'inventent des choses, qu'ils imaginent des choses qui vont souvent bien au-delà de la réalité, je leur dis clairement, ben voilà, j'ai la mucoviscidose, oui, il y a un risque de mourir, mais j'en suis pas là, et voilà, je mettais les mots, et en fait, au final, ça dédramatisait tout. Je leur disais, moi, c'est pas tabou, je veux pas non plus être mise avec une étiquette sur le front et qu'on me voit comme étant la prof malade, mais le fait de mettre les mots, ben, on s'imagine moins de choses, et enfin, tout est plus simple, finalement.
Tu as pratiquement toujours vécu en sachant que tu étais malade. Tu l'as appris vers tes 3-4 ans, c'est ça, c'est ce que
oui,
tu
c'est ça,
dans
c'est
le...
ça. J'ai été diagnostiquée à l'âge de 3 ans, oui.
Il y a quelque chose de très fort dans ce livre, c'est le rapport de ta mère avec la culpabilité. Mm-hmm. Est-ce que ça a joué sur la manière de te construire ?
Non, parce que ce n'était pas au quotidien sa culpabilité. C'est juste que quand on discutait des choses vraiment profondes, c'est vrai qu'elle nous a déjà avoué de s'être dit que finalement c'était de sa faute, alors qu'en fait pas du tout. Mes parents, donc, ils étaient porteurs tous les deux de la maladie, mais n'avaient pas eux la maladie, n'étaient pas atteints. Et donc en fait ils ont découvert ça lorsque, donc moi je suis née, on savait pas ce que j'avais, enfin je paraissais j'allais dire normal, c'est un terme que j'aime pas, mais sans, enfin, je paraissais pas malade. Et ma sœur, quand elle est née, allait moins bien. Et c'est suite à ça que tout s'est déclenché, et le diagnostic est tombé. Et donc c'est là qu'ils ont découvert en fait qu'ils étaient porteurs, etc. Donc il y a aucune culpabilité à avoir. Et même s'ils l'avaient su à l'avance, moi c'est pas, enfin je les tiens pas du tout pour responsables de quoi que ce soit. Mais c'est vrai que ma mère a eu un peu tendance à le vivre comme ça, peut-être pas tout le temps, peut-être que c'était par période, mais ça m'avait marqué en tout cas quand elle nous l'avait dit et quand elle nous avait même posé la question, est-ce que j'aurais dû ne pas vous avoir parce que vous avez la muco et que c'est, voilà. Bon, moi évidemment, je lui ai dit, mais évidemment que je préfère vivre plutôt que ne pas exister, quoi. C'est une évidence. Moi, la muco, oui, c'est une épreuve à certains moments de ma vie, mais je le vois pas comme quelque chose de négatif finalement. Alors peut-être que je dis ça parce qu'aujourd'hui je vais bien, il y en a qui ont beaucoup plus de difficultés et ça peut être beaucoup plus lourd, etc. J'estime que j'ai de la chance en fait, donc c'est peut-être pour ça aussi que je le dis comme ça, mais pour moi finalement la muco m'a construite, elle m'a rendue forte aussi. C'est pas que ça, évidemment, toute ma vie ne repose pas sur la maladie, mais elle a fait partie de ma construction, ouais.
Est-ce qu'elle a lu ton livre ?
Oh oui, bien sûr qu'elle a lu, elle était vraiment... oui, elle l'a lu au tout début, dans les premiers, avant même qu'il soit édité en fait, parce que j'avais aussi besoin de qu'elle approuve en fait ce que j'écrivais. Je voulais pas non plus la blesser dans quoi que ce soit, parce que je voulais pas cacher des choses, voilà. Mais... ouais, mon but, c'était vraiment pas de blesser. Donc, je me disais, s'il y a quelque chose qui lui plaît pas, peut-être que je pourrais le dire autrement s'il faut. Bon, puis finalement, il n'y a rien eu à enlever du tout. Elle a adoré, elle en a pleuré, elle en a passé des nuits blanches, elle me disait après la lecture. Et voilà, mais bien sûr qu'elle l'a lu, oui.
Y a un sujet douloureux que toi, tu abordes. Donc, tu l'abordes de chapitre 11. Pourquoi écrire ce livre ? Peut-être que j'avais seulement besoin d'un nouveau projet, d'un nouveau défi, pour oublier l'échec d'un autre, peut-être pour combler ce manque, le manque d'être un jour maman. C'est un sujet tabou, l'infertilité, dans notre société. C'était important pour toi de l'évoquer ?
Ah bah oui, parce que là, pour le coup, je pense que c'est vraiment l'une des raisons d'avoir écrit ce livre, parce que c'est vrai que j'aurais aimé avoir un enfant un jour. A priori, ça ne sera pas le cas. Et du coup, bah, ce livre, c'est aussi une autre façon de transmettre Bon, je pense qu'il y a plein de façons de transmettre finalement, mais c'est vrai que ouais, j'avais besoin de transmettre des choses et je me suis dit, après tout, c'est une autre façon de le faire, effectivement, de pouvoir essayer de transmettre un peu de force au lecteur, que ce soit pour n'importe quelle épreuve finalement. Ça peut être pour la maladie, ça peut être pour l'infertilité aussi, ça peut être pour plein de choses. Et d'ailleurs, bah, par rapport à l'infertilité, comme vous venez dessus, là justement, j'ai déjà eu des retours de femmes qui m'ont dit bah, ça m'a fait du bien parce qu'en fait j'ai lu votre livre et je me suis rendu compte que j'étais pas seule dans cette situation de l'infertilité ou des choses comme ça. Et c'est vrai que même si on le sait qu'on n'est pas seule, mais de le lire ou de l'entendre, et ben, ça peut aider.
Oui, et puis souvent on a le droit à des réflexions assez... assez limites de certaines personnes, que ce soit même des personnes de notre entourage, sur ce sujet notamment, parce qu'ils ne savent pas forcément comment l'aborder, et même ils ne font pas forcément attention à ce qu'ils disent. Et c'est surtout que dans un point de vue, d'un côté médical, on n'en parle pas, ou peu.
Ah oui, non, c'est sûr. Moi, il y a plein de choses que je ne savais pas. Oui, y a plein de, en fait, en en discutant, on se rend compte qu'il y a plein de choses qu'on ne sait pas parce qu'on n'ose pas en parler. Et puis, même... vis-à-vis des autres, on n'ose pas en parler parce qu'on ne veut pas blesser l'autre, en fait, même quand, dans le cas d'une infertilité de nous, mais en parler à quelqu'un, ça veut dire, on ne sait pas dans quelle situation se situe la personne avec qui on parle, donc ça peut être délicat et bah, les gens préfèrent ne rien dire plutôt que d'être indélicat parfois, même si parfois ils sont très indélicats sans même s'en rendre compte. Mais
est-ce que on peut dire que ce livre c'est une thérapie pour toi?
Je ne sais pas si c'est une thérapie, parce que la thérapie, finalement, je l'ai faite avant. Moi, j'ai dans les épreuves, j'ai toujours écrit. Et alors, ça m'a vraiment aidée dans certaines épreuves, hein, comme j'ai perdu mon père quand j'avais 24 ans. Donc ça, j'ai eu besoin d'écrire beaucoup. Là, dans ce cas-là, ça a été vraiment une thérapie. Là, c'est après. On est passé à un autre stade, parce que là, c'était vraiment plus sur le fait de transmettre les choses. C'est pas, ce livre, ce n'est pas pour moi que je l'ai écrit, c'est vraiment pour transmettre les choses. Alors, forcément, pour moi aussi, je pense que dans le fait d'écrire, de toute façon, il y a quelque chose d'un peu, j'ai presque envie de dire presque égoïste, dans le sens où on a besoin d'en retirer quelque chose. Et moi, c'est vrai que toutes les émotions des gens, quand ils l'ont lu, ça me nourrit vraiment. Et je me sens utile un peu aussi, etc. Donc tout ça, c'est pour soi. Mais vraiment, là, c'est pas vraiment pour me reconstruire que je l'ai écrit. C'était vraiment pour transmettre des choses et pour pouvoir aider d'autres personnes, finalement.
Et du coup, ça a été, tu dirais que c'était quoi le déclic pour justement transmettre ce...
Bah, tout simplement parce que, en fait, lors des différentes épreuves que j'ai traversées, j'ai écrit et parfois j'ai eu besoin de faire lire mon entourage ou mes amis, etc. parce que j'avais besoin de me rendre compte que ma réaction était normale, que j'étais comme tout le monde, que c'était pas bizarre de penser de telle ou telle façon. Et quand les personnes lisaient, finalement, souvent, les retours étaient que les émotions étaient très intenses. Et j'avais besoin de ça. J'aime transmettre les émotions. C'est vraiment ce qui me plaît dans l'écriture, transmettre les émotions. Et puis, voilà, chambouler un peu tout, c'est ce que j'aime. Et j'avais envie de le faire depuis très longtemps, déjà plusieurs années. Je pensais à écrire un livre, mais sans que mon objectif soit clair. Mais encore une fois, je reviens sur le fait que je pensais que c'était réservé aux écrivains, etc. Donc c'est pour ça que je ne le faisais pas vraiment. Je pensais que ça ne m'était pas autorisé presque. Et un jour, c'est mon conjoint, mon mari qui m'a dit « essaie, tu verras bien ». Et je me suis dit « bah oui, c'est vrai, pourquoi je ne le fais pas en fait ? Il n'y a rien qui m'en empêche. Même si c'est que pour moi, mon entourage, puis ceux à qui je veux le transmettre, mais je vais essayer. Au moins, j'aurais déjà fait ça ». Et puis, une fois écrit, en fait, je l'ai envoyé à des maisons d'édition. Mais je pensais, encore une fois, je ne pensais pas qu'il serait publié parce que je pensais que ce n'était pas possible. Donc, c'était juste pour en savoir, savoir quelle était la qualité de l'écriture. J'avais vraiment besoin d'un retour là-dessus puisque ce n'est pas mon domaine, etc. Et c'est suite à ça que ça s'est lancé, finalement. Voilà.
D'ailleurs, tu as écrit ton deuxième livre, ça y est. Oui. Tu as signé, d'ailleurs, ton contrat.
Oui, tout à fait.
Est-ce que tu peux nous en dire quelques mots sur ce deuxième livre ?
Oui, alors c'est pas du tout la même chose et ça a été un travail totalement différent puisque là c'est une fiction et je me suis basée sur un fait d'actualité finalement à partir duquel j'ai inventé toute une histoire. Mais par contre, je dirais que l'objectif reste le même quand même puisque mon but, c'est d'essayer de transmettre peut-être des messages et transmettre de la force et des émotions, surtout des émotions.
Bah, l'émotion, d'ailleurs, c'est ce qu'on retrouve, tu le dis énormément de fois dans ton livre, Une bougie de plus. C'est vraiment quelque chose, on sent, c'est très sincère. C'est une lecture, vraiment, moi, j'ai trouvé que c'est une lecture très sincère et où même moi, je me suis... je retrouvais dans certains passages de ce que tu écris. Donc c'est vraiment, moi c'est un livre que je conseille en tout cas parce que je trouve que ça peut parler à tout le monde, pas forcément l'entièreté de l'histoire,
bien sûr,
mais vraiment sur quelques passages, quelques moments, sur les émotions aussi, voilà, apprendre à placer des mots sur ce qu'on ressent, ouais, surtout principalement.
Bah, c'est gentil.
Écoute, avec plaisir. Bah, du coup, ce qui est parfait, c'est que les personnes qui n'ont pas encore lu le livre, qui ont envie de découvrir ton univers, de te découvrir aussi, ils peuvent te retrouver en dédicace au Salon du Livre à Salouel le samedi 1er mars. Et tu as d'autres dates d'ailleurs.
Oui, je vais être à l'atelier de la libraire là, sur Amiens le 12 février. Et puis le 12 juillet, je serai à la librairie avec plusieurs auteurs à la librairie de rue.
Est-ce que tu as un petit mot, un message à faire passer pour nos auditeurs et auditrices, tes lecteurs, lectrices?
Ben moi, ce que j'ai envie de passer, c'est par mon livre aussi, hein, ne vous mettez pas de barrières. Vraiment, si vous avez envie de tenter quelque chose, ben faites-le, ça ne coûte rien. C'est, au pire, ça ne marche pas, ben on essaie, puis on recommence. Et puis voilà, voilà, mais il ne faut pas se mettre de barrières et puis il faut vivre à fond, quoi.
Tu as d'autres projets en cours? Parce que du coup, tu viens de signer pour ton deuxième livre. Est-ce que tu as d'autres projets?
Projets littéraires, vous voulez dire?
Projets littéraires, projets culturels.
Bah, j'ai alors c'est peut-être un peu prématuré, mais j'ai commencé tout doucement le troisième livre.
Eh bien, écoute, hâte de découvrir tout ça. Je le rappelle, donc, tu es l'autrice du livre Une bougie de plus, que l'on retrouve aux éditions d'Ulysse. Merci beaucoup, Cécile, d'être venue dans notre studio. À bientôt.
Merci. Merci beaucoup Colline pour ce sujet. Pour rappel, tu es allée à la rencontre de Cécile Berger, l'autrice du livre Une bougie de plus. Son ouvrage sera disponible à l'achat au Salon du Livre de Salouel le 1er mars 2025, puis disponible en librairie. Avant de passer à la seconde partie de l'émission, je vous propose une petite pause musicale avec le titre Cinéma de Marguerite Thiam, un titre proposé par Inès.
Oh,
Vous êtes toujours à l'écoute d'InfoClub Sandwich, votre quotidienne d'actualité locale et associative réalisée par Radio Campus Amiens. Mathilde, pour bien débuter cette seconde partie d'émission, il me semble que tu as une petite chronique à nous proposer. La parole est à toi.
Oui, merci. Si je vous dis années 90, Robin Williams, poète et carpe diem, à quoi pensez-vous ? Eh oui, au film Le Cercle des Poètes Disparus, réalisé par Peter Weir en 1989. Ce film est le sujet de cette chronique. Ce long métrage suit la vie d'un groupe de jeunes garçons dans la prestigieuse académie de Welton. John Keating, le nouveau professeur d'anglais, a une pédagogie qui sort de la norme. Tout au long du film, il invite ses élèves à voir la vie sous d'autres angles que ceux proposés par l'école. Il les pousse à réfléchir par eux-mêmes et à faire leur propre choix de vie. Cette œuvre intemporelle est une ode à la liberté et au bonheur. Elle touche toutes les générations. N'importe qui peut être concerné par des questions sur le futur et sur le bonheur. Tout le monde n'a pas la chance de pouvoir faire ses propres choix. Le personnage de Neil Perry en est la preuve. Ce film inspirant et émouvant nous plonge dans un univers dramatique, mais nous permet également d'aspirer à un avenir meilleur. Et si vous ne l'avez pas déjà vu, je ne peux que vous le recommander. Pour celles et ceux qui souhaitent revisiter ce film culte, c'est possible. Olivier Soliveres l'a adapté en pièce de théâtre. Vous pouvez donc vous replonger dans le monde poignant de ce groupe d'adolescents au Théâtre Antoine à Paris. Vous avez jusqu'au 30 avril 2025 pour profiter de ce spectacle, et ce, à partir de 22,90 €.
Merci beaucoup pour cette belle chronique, Mathilde, qui est à première chronique en direct à la radio, je crois.
Oui.
On passe maintenant aux actus. Colline, je t'en prie.
Alors moi, je vous ai sélectionné deux petites infos. Ce jeudi de 14h à 16h au Cinéma Pâté est organisé un jeudi citoyenneté dédié aux enfants sur le thème Égalité filles-garçons, on rêve grand, on réussit ensemble. Pendant 2 heures vont intervenir la Ligue des droits de l'homme, l'UNICEF et l'association Initiel, avec un temps d'échange pour explorer comment l'éducation, la lutte contre les stéréotypes de genre et l'accès équitable aux opportunités permettent à chaque enfant de rêver grand et de réussir pleinement. L'entrée est gratuite dans la limite des places disponibles et toutes les informations sont sur le site d'Amiens Métropole. Et toujours dans les actualités de la ville, ce jeudi également est proposé un dispositif appelé Stage & Co pour les étudiants. C'est organisé au Quai de l'Innovation au 93 rue du Hockey à Amiens. Cet événement permet aux étudiants et étudiantes de rencontrer des recruteurs issus de 5 pôles d'activité, services aux entreprises, commerce et distribution, industrie BTP agriculture, communication marketing digital et social RH aide à la personne. Cette manifestation, c'est également une opportunité pour les étudiants du supérieur à la recherche d'un stage de profiter de keynotes inspirantes et de masterclass animées par des experts du recrutement. Un programme assez riche pour apprendre à créer son CV et optimiser ses recherches se déroulera tout au long de la journée, de 9h à 16h. Et cette fois-ci, pour plus d'infos et pour s'inscrire, c'est sur www.stageco-amiens.com. Voilà, c'est tout pour moi.
Merci Colline pour toutes ces actus. C'est déjà la fin d'InfoClub Sandwich. On se quitte avec la musique de Rémi. Il s'agit aujourd'hui du titre Open Passageway du groupe All Them Witches. Juste après ce titre, retrouvez le 16e numéro de Prépanorama, une émission d'actualité étudiante réalisée par Jasmine. Pour ce nouvel épisode, elle est allée à la rencontre des élèves de la prépa d'approfondissement en arts plastiques du lycée Louis Thuillier à Amiens. Merci de nous avoir écoutés et à très vite sur les antennes de Radio Campus Amiens. Au revoir. Pack up your tents to travel through rolling countryside. Lay down your hammers, brother. Through open passageways I felt my breath grow shallow. Lend me a voice, oh God. Scream and shout and bellow. Chew up your love, then swallow. We'll be right back.
shadow. Cast down with weary eyes. Bid their sheep to follow. Chew up your love, then swallow.
Bonjour à tous, bonjour à toutes, bienvenue dans le 16e épisode de Prépanorama. C'est une émission qui a pour objectif de vous présenter les différentes classes préparatoires à Amiens et ses alentours, avec la participation des étudiants et des professeurs de différentes formations. Pour la deuxième partie de cet épisode, nous sommes avec Kylian et Élise du lycée Louis Tullier à Amiens pour nous présenter leurs ressentis au sein de la classe d'approfondissement en arts plastiques, CPES-CAAP.
Bonjour Kylian.
Bonjour.
Je voudrais dans un premier temps parler de tes impressions justement sur la classe préparatoire. Comment tu décrirais ton expérience en tant qu'élève ?
Déjà au début, c'était beaucoup de doutes. Je tenais à faire une prépa parce que je savais que je n'étais pas encore à la hauteur pour directement entrer en grande école. Et la prépa m'a beaucoup apporté. Elle m'a aidé à grandir surtout, à trouver de nouvelles manières de pratiquer, à développer ma démarche artistique, à savoir où mettre mes mots sur mes intentions, là où avant je ne savais pas vraiment mettre mes mots, à part juste dire que c'était un dessin ou une peinture ou une sculpture. Ensuite, je trouve que la prépa, elle aide beaucoup à mûrir, dans le sens où en prépa, là où dans d'autres écoles, on ne va pas nous apprendre, à la prépa, on va surtout nous apprendre à mettre notre ego de côté et à apprendre à accepter la critique, là où parfois on ne nous l'apprend pas et du coup on pense que tout ce qu'on fait est parfait, alors que parfois non, on a besoin d'entendre que ce n'est pas encore ça et qu'il faut justement changer et recommencer pour mieux refaire. Ensuite, oui, au cours de l'année, j'ai eu beaucoup de doutes et de peurs, dans le sens où des fois je me disais « j'ai rien à faire ici, comparé aux autres, je suis complètement nulle, je ne sais pas argumenter, autant abandonner ». Mais en même temps, ce qui est bien avec notre classe, c'est qu'on n'est pas très nombreux, du coup on a un groupe très solidaire. Et ça aide beaucoup et donc on se soutient chacun les autres et on fait toujours en sorte d'aller plus loin.
Justement, je voulais revenir, quel aspect de la classe préparatoire tu apprécies le plus ?
Les aspects que j'apprécie le plus en classe préparatoire, je pense que ça serait les temps d'autonomie. Parce que c'est là où de nous-mêmes, on va aller chercher notre propre démarche, à expérimenter de nouveaux médiums, à se poser des questions sur ce qu'on veut faire. C'est là où on apprend tous à se connaître et tous à créer des liens.
Avant d'évoquer tes objectifs et ton parcours, est-ce que tu pourrais nous décrire un peu la charge de travail dans la classe préparatoire ?
La charge de travail, elle dépend beaucoup. Parfois, on va avoir des périodes où on n'a pas grand-chose à faire. Donc, c'est là où on va surtout travailler le plus en autonomie. Et il y aura des moments où, très fois, c'est sur de courtes périodes de 2 semaines, je dirais, où on va avoir beaucoup de travail. Et là, ça va être très... En début d'année, c'est très compliqué à suivre parce qu'on a 35 heures par semaine en tout. Donc, on travaille beaucoup en semaine. Et quand on sait toute la charge de travail qu'on a, parfois, c'est un peu compliqué. Mais les profs sont très compréhensifs. Et parfois, quand on leur dit qu'on n'a pas le temps et qu'on va rendre un devoir en retard, ils sont compréhensifs et... parce qu'ils savent que... À côté, on n'est pas. Certains d'entre nous, on a des travaux étudiants, donc on ne peut pas toujours penser aux devoirs.
Justement, est-ce que tu t'attendais à ce qu'il y ait parfois une charge de travail aussi importante ou pas du tout ?
Oui, je m'y attendais parce que quand j'étais en terminale et que j'ai dit que je voulais faire une prépa, tout le monde m'a prévenu de attention, tu vas beaucoup travailler, fais attention, tu auras plus de vie sociale, il y aura beaucoup de devoirs, ça va être très compliqué, tu vas pleurer toutes les larmes de ton corps. Donc au début ça décourage un peu car quand on entend ça, on se dit je suis partie pour juste travailler toute l'année et ça va être un enfer. Et mine de rien, même s'il y a beaucoup de travail, en soi, il y a un but à la fin et on voit qu'on a une évolution. Et comme je l'ai dit, je pense que de toutes mes années scolaires, mon année de prépa, c'est l'une des meilleures que j'ai eues.
Justement, pour revenir un peu sur l'enseignement, comment tu décrirais la relation avec les enseignants ? Est-ce que c'est simple de pouvoir aller leur parler, d'avoir de leurs conseils, etc. ?
Ça va dépendre des professeurs. Par exemple, les professeurs de matière générale, lettres, philosophie, sciences et anglais, il va y avoir un peu cette barrière de « ils ne sont pas professeurs d'art, donc on va un peu moins aller vers eux ». Mais quand il est question de professeurs d'art, histoire de l'art ou art plastique, là, c'est plus facile d'aller vers eux parce que ça concorde plus avec ce que nous, on veut faire. Et c'est beaucoup plus facile de parler avec eux de notre démarche, de nos portfolios. Mais il faut quand même parler avec les professeurs de matière générale parce qu'ils ont quand même leur avis. Et parfois, c'est très utile d'avoir un avis extérieur qu'artistique sur nos projets.
Et pour finir, comme je l'avais souligné au début, qu'est-ce que tu envisages après la classe préparatoire ? Est-ce que tu as des idées d'école ?
Ça, c'est sûr, je veux travailler dans le monde de l'art, il n'y a pas de doute, c'est ce que j'aime faire. Je mange, je bois, je dors art. Et là, les écoles que j'ai visées sont donc les Beaux-Arts de Paris, les Arts Déco de Paris et notre académie Beaux-Arts en France. Donc il y a celle de Caen, de Dijon et de Besançon.
Donc pour l'instant, les perspectives professionnelles restent un peu floues. Pour terminer, est-ce que tu aurais des conseils à donner aux futurs étudiants qui souhaiteraient venir en classe prépa ou aux futurs étudiants en général ?
Venez comme vous êtes. En soi, personne ne va vous juger par rapport à comment vous dessinez. On n'attend pas à ce que vous soyez parfait parce que justement, la prépa, c'est là pour vous apprendre. Donc quand on va envoyer un portfolio pour entrer en prépa, on ne s'attend pas à ce qu'il soit parfait. Le mien, par exemple... Déjà, il n'était pas du tout dans le bon format. J'avais envoyé un format portrait à la place d'un format paysage. Et il n'y avait pas du tout de note d'intention. C'était juste des dessins que j'ai envoyés. Et pourtant, je suis là. Juste montrer que vous avez l'envie d'être en prépa et que vous avez l'envie de vouloir travailler dans le monde de l'art.
Eh bien, merci Kylian d'avoir répondu à nos questions.
Merci à vous.
Nous sommes avec Élise. Bonjour Élise.
Bonjour.
Je voudrais dans un premier temps parler de tes impressions sur la classe préparatoire. Comment tu décrirais ton expérience en tant qu'élève ?
Je la décrirais comme... c'est une évolution. La classe prépa, c'était vraiment une grande passerelle dans ma vie, passée de lycéenne à étudiante. Je trouve qu'on apprend beaucoup de choses et peut-être en quelque sorte des notions aussi de la vie en tant qu'étudiante, tout ça. Et je trouve que c'était une expérience nécessaire.
Quel aspect de la classe préparatoire tu apprécies le plus ?
Ce serait... je ne sais plus comment on dit. On est tous ensemble et on est un petit nombre et je trouve qu'il y a, on s'entraide beaucoup et je trouve que c'est hyper important et c'est un aspect qui m'a beaucoup aidé, m'a beaucoup aidé à évoluer cette année.
Est-ce que tu pourrais nous expliquer le choix de cette classe préparatoire ? Pourquoi t'as pris cette classe préparatoire spécifiquement ?
Celle d'Amiens était la plus proche et mes professeurs, mon professeur d'art plastique, d'option d'art plastique, en a parlé comme une avec une très bonne ambiance, avec des professeurs dont ils savaient qu'ils étaient aptes à me donner les notions nécessaires pour la suite. Donc,
Pour revenir un peu sur justement les perspectives d'avenir, qu'est-ce que tu envisages après la classe préparatoire ? Je parle en termes scolaires pour l'instant.
J'envisage une école supérieure d'art afin d'avoir un DNA. Donc cette année, j'ai prévenu mes professeurs que je visais ce diplôme. Et donc on m'a aidé à me construire mon dossier pour les écoles à partir de ça. Et donc j'ai pu acquérir de nouvelles notions, tout ça sur... Puisque prenons l'exemple d'un élève qui voudrait faire de l'animation en fin d'année, il en est certain. Les professeurs vont lui conseiller de lire peut-être des livres sur ça, peut-être regarder des films, c'est important de savoir peut-être, ou de ne pas savoir, au début d'année, ce qu'on veut, puisqu'on va nous guider vers cela. Et si on ne sait pas ?
Pardon.
Et si on est toujours perdu, tout ça, et je trouve qu'on nous aide beaucoup à nous diriger vers, au fond, ce qu'on aime ou ce que notre profil se dirige vers.
Et pour terminer, est-ce que tu aurais des conseils à donner aux futurs étudiants de la prépa ou même aux futurs étudiants en général ?
Je dirais qu'il faut rester curieux, qu'il faut être prêt et être motivé et pas abandonner. Qu'il faut rester curieux.
Eh bien, merci Elise.
Merci à vous.
Nous étions avec Kylian et Elise afin de présenter la filière CPES-CAP au lycée Louis Tullier à Amiens. C'était le 16e épisode de Prépanorama, une production réalisée en partenariat avec la mission d'enseignement supérieur, recherche et innovation d'Amiens Métropole. À bientôt.